direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec Annie Lebrun, écrivain, poète, critique, commissaire de cette exposition Sade, attaquer le soleil. Un programme de lecture, de table ronde, de projection de films a été imaginé dans le cadre de cette exposition au musée d'Orsay pour faire découvrir, redécouvrir Sade parallèlement à cette exposition. Et vous y participez, Benjamin Lazare, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, metteur en scène. Votre milieu de prédilection, c'est la scène baroque. Il y a quelque chose de baroque dans le personnage de Sade ?
Quelque chose. Ben, il est insaisissable. Donc, si en ça, il est baroque, mais enfin, il va au-delà. Il arrive et on peut déceler dans son écriture des choses qui viennent du baroque, qui viennent de Cyrano de Bergerac, qui viennent de Quevedo. Parfois, les sujets qu'il choisit. Il ressemble à ce que pouvaient écrire ces gens-là.
Ouais, une influence du baroque sur les choix esthétiques de Sade, Annie Lebrun ?
Je pense, oui, parce que dans le luxe des descriptions, des décors qu'il invente dans ce théâtre incroyable, ce théâtre mental qu'il va mettre en scène, on est dans la luxuriance, dans la dépense, en quelque sorte, qu'il y a dans le baroque, ça c'est sûr. Et puis aussi, je pense qu'il y a cet héritage chez Sade, des premiers libertins, au sens philosophique du terme, du début du 17e.
Alors Benjamin Lazare, vous participez à un programme qui s'appelle Les Voix de Sade, avec des lectures de textes. On va y revenir dans un instant d'ailleurs. Vous allez nous en faire profiter en direct dans un instant, puisque vous avez choisi une lettre de Sade que vous allez nous lire aujourd'hui dans VMDN. Avant de vous écouter, on va revenir sur le parcours de Sade avec vous, Maïsa Costache, un parcours qui le fit passer plusieurs fois par la case prison.
Je suis emprisonné pour des crimes que je n'ai pas commis. On égorge les prisonniers de la Bastille. Peuple de Paris, au secours! Viens jeter à bas ce monument d'horreur. Le gouverneur de cette forteresse est un bourreau.
2 juillet 1789, la prison de la Bastille. Le marquis de Sade y est enfermé depuis 11 ans. 5 ans et demi à Vincennes et 5 ans et demi à la Bastille. Le lendemain, il est transféré à Charenton. Pendant sa vie mouvementée, il est resté enfermé pendant 27 ans, dont 13 ans de forteresse. Jean-Jacques Pauvert, éditeur et écrivain qui a passé sa vie à étudier Sade, auteur d'une biographie de Sade publiée chez Robert Laffont, document INA.
On présentait ces 13 ans de forteresse toujours comme une condamnation. Moi, je me suis aperçu, enfin, je pense que la vérité est là, c'est qu'en fait, Sade, bon, était sadique, a commis des délits. On l'enferme, il aurait certainement été libéré au bout de 18 mois à 2 ans. Mais il reste en prison parce qu'il ne veut pas renoncer à sa façon de penser, parce qu'il veut continuer à écrire.
Mais qui est ce marquis de Sade ? Il est né le 2 juin 1740 à Paris, à l'hôtel de Condé. Sa mère, c'était une dame de compagnie de la princesse de Condé qui finira sa vie dans un couvent et c'est la grande absente de sa vie. Gonzague Saint-Brie, auteur du livre « L'ange de l'ombre » aux éditions Télémaque.
C'était un aristocrate de Provence, d'une très grande famille française, qui a une éducation un peu particulière, parce qu'il a été élevé par un père qui était un séducteur, qui était un libertin, qui était l'amant des favorites royales, et qui était aussi bisexuel. Et puis, il a été élevé par le père qui, de temps en temps, le confiait à son frère, c'est-à-dire à l'oncle de Donatien de Sade. Et cet oncle était un évêque, un cardinal totalement dévoyé.
Voilà, le décor est planté. Beaucoup diront que l'absence de la mère et surtout de sa tendresse ont eu une influence désastreuse sur l'évolution du jeune Donatien. L'adolescent entre en 1750 chez les jésuites du collège d'Harcourt. Il se découvre une passion pour le théâtre et la science et la scène qu'il conservera toute sa vie. Puis, on retrouve le jeune marquis dans l'armée et il participe à la guerre de 7 ans opposant l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre. Après la guerre, il épouse mademoiselle Renée Pellargy de Montreuil, forcée par sa famille. 4 mois après, Nous sommes en 1763. Il est arrêté pour la première fois de sa vie par ordre du roi et incarcéré au donjon de Vincennes. Motif, débauches, outrées, blasphèmes et outrages à l'image du Christ. C'est le premier contact avec la prison. Vont suivre des emprisonnements successifs jusqu'en 1789, quand il écrit ses premiers ouvrages, dont Les Infortunés de la Vertu. Libéré en 1790, divorcé, il s'installe avec Marie-Constance Quesnay, une comédienne qui restera à ses côtés jusqu'à sa mort. De cette époque date Justine, ou Les Malheurs de la Vertu, qu'il reprendra plus tard dans La Nouvelle Justine en 1797. Le scandale déclenché par ce dernier roman lui vaudra une nouvelle arrestation en 1801. Incarcéré à Charenton en 1803, il organise des représentations théâtrales avec des personnages de ses derniers romans, Les Journées de Fleur Belle ou La Marquise de Ganges en 1813. Le 2 décembre 1814, le marquis de Sade tire sa révérence après avoir rêvé ses fantasmes sexuels qu'il avait écrits, à défaut de n'avoir pas pu les vivre.
Est-ce que c'est si sûr que ça, Annie Lebrun? Est-ce que Sade était un homme de fantasmes avant tout?
Il a dit que tout le bonheur de l'homme est dans son imagination. Mais son rapport au théâtre est extrêmement intéressant parce que justement, il a été toute sa vie, depuis qu'il est petit, fasciné par le théâtre, mais avec toujours comme le lieu où peut s'incarner justement l'irréalité des désirs, mais avec toujours à la fois une tentation continue et une infortune continue, parce que son rapport au théâtre montre que la scène sur laquelle il peut intervenir est toujours en deçà de ce dont il a rêvé, et c'est pour ça qu'il va ouvrir cet autre théâtre mental qui est complètement fou.
Il y a beaucoup de débats autour de la personnalité de Sade, j'ai l'impression, puisque vous avez un petit peu réagi pendant que Maïsa parlait, en particulier quand on écoutait Gonzague Saint-Brice. Visiblement, vous n'avez pas tout à fait la même vision des choses
que
lui.
J'ai vu que vous avez réagi, j'ai pas osé.
Oui, bon, parce qu'on est dans une sorte de psychologisation complètement ridicule. On essaye d'interpréter, alors que en même temps aussi, s'il s'agit d'une pensée qui dépasse complètement les déterminations familiales, etc.
C'était quand même, ce que dit Gonzague Saint-Brice, c'était quand même la vérité historique. Il n'a pas dit autre chose.
Quoi?
Sur son enfant, sur son père, sur ses...
Oui, enfin, il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été dites, dans ce que vous avez dit.
Oui, mais alors justement, je voudrais que vous les mettez... C'est pas moi qui suis en cause, là, directement, c'est
Gonzague
Saint-Brice.
Non, mais on va pas perdre du temps à pinailler sur des détails, mais bon, tout ça, ça donne une image qui n'est pas du tout... qui ne rend pas compte du tout du propos et de l'envergure de Sade.
Vous avez déjà commencé, puisque le cycle est en cours, un cycle de lecture au Musée d'Orsay. Là, on n'est pas du tout dans la lecture intime, puisque c'est au contraire une lecture publique. On va y venir dans un instant. Vous allez nous raconter comment le public, précisément, réagit à vos textes. Et vous avez accepté d'en faire profiter nos auditeurs, Benjamin Lazare. Vous avez choisi le passage d'une lettre de Sade, une lettre à sa femme, de novembre 1783, où il écrit sur sa façon de penser. On vous écoute.
« Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. » Et que m'importe? Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai que je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde, et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. L'homme raisonnable qui méprise les préjugés des sots devient nécessairement l'ennemi des sots. Il doit s'y attendre et s'en moquer. Un voyageur suit une belle route, on la semait de pièges, il y tombe. Dites-vous que c'est la faute du voyageur ou du scélérat qui a tendu les pièges? Si donc, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons donc nous dire un éternel adieu, car je sacrifierais plutôt qu'eux 1000 vies et 1000 libertés si je les avais. Ces principes et ces goûts sont portés par moi jusqu'au fanatisme, et le fanatisme est l'ouvrage des persécutions de mes tyrans. Plus ils continuent leur vexation, plus ils enracinent mes principes dans mon cœur, et je déclare ouvertement qu'on n'a pas besoin de me jamais parler de liberté si elle ne m'est offerte qu'au prix de leur destruction. Je le dis à vous, je le dirai à Monsieur Lenoir, je le dirai à toute la terre, l'échafaud serait là, que je ne varierai pas.
On voit effectivement la personnalité très très forte du Marquis de Sade, Annie Lebrun, mise en onde, mise en mots, mise en voix par Benjamin Lazare, et merci beaucoup de l'avoir fait évidemment en direct dans VMDN. Sade, malgré les attaques, n'a jamais tressailli. Il est toujours resté sûr de lui, sûr de soi, sûr d'avoir raison aussi, Annie Lebrun.
Je ne sais pas, mais sûr que c'est lui-même, que c'est sa façon de penser. Et ça, c'est un des apports essentiels de Sade. Justement, cette affirmation d'une singularité irréductible qu'il y a en chaque homme. Et avec le courage qui a été le sien, de commencer à penser le monde à partir de ce qui les différencie des autres hommes. Et au moment où toutes les autres personnes qui pensent, les philosophes, eux, au contraire, s'appliquent à penser à partir de ce qui se relie les autres hommes. Toute la fin du XVIIIe siècle, c'est la question du lien social. Or, Sade, à ce moment-là où le lien social devient quelque chose de tout à, comme une sorte d'impératif catégorique, si je puis dire, lui va affirmer envers et contre tout l'irréductible singularité de chacun, et en affirmant qu'elle est liée à la singularité sexuelle.
Alors, pourquoi vous choisissez ce texte-là? Benjamin Lazare, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que vous choisissiez un texte plus sulfureux.
Disons que il contient toutes les possibilités de Sade, puisqu'il affirme sa singularité. Mais je pense que il n'est pas possible de dire un extrait de Sade sans contexte. En une minute et demie, on peut pas juste...
Oui, parce que l'exercice était contraint.
On pourrait dire, effectivement, on pourrait trouver un passage absolument terrifiant, très très choquant, mais je pense que ça ne reflèterait pas ce qu'il se passe quand on lit Sade dans la continuité et quand on suit son chemin de pensée. Donc ça serait le trahir que d'en lire un extrait d'une minute et demie comme ça.
Alors au musée d'Orsay, ces lectures sont évidemment beaucoup plus longues. Il y a des extraits de sa philosophie dans le boudoir, de Justine. Vous évoquez aussi sûrement Juliette, hein, qui est vraiment une femme très très libre sexuellement. Comment est-ce que ces textes-là, autant que vous le sachiez, sont perçus aujourd'hui par ceux qui viennent vous écouter?
D'abord, c'est une expérience peut-être à risque de lire Sade, de le lire à voix haute, mais en même temps, l'expérience s'imposait parce que Sade est un écrivain extrêmement théâtral, c'est-à-dire extrêmement précis dans ses images. Et si on regarde les 120 journées de Sodome, la façon dont il dresse le décor pour ce qu'il appelle les historiennes qui vont raconter toutes les perversions sexuelles auxquelles elles ont été confrontées dans leur vie, le décor qu'il dresse est un théâtre absolument fabuleux, où les fêtes qu'organise Juliette pour les libertins et dans lesquelles se passent des horreurs absolues, des meurtres, des tortures, etc. Ces descriptions valent les plus belles descriptions des opéras du grand siècle. Donc voilà, c'est d'abord cette dimension-là qui éclate.